de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de films qui sont sur les écrans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance, mais c'est aussi beaucoup de travail. Nous allons entendre deux réalisatrices et un réalisateur. Et toi, tu as pu rencontrer une de ces réalisatrices, Sophia.
Oui, j'ai rencontré Mélissa Drijard pour la sortie de son film Le Gang des Amazones.
Et puis moi, j'ai pu rencontrer Alex Poukine pour le film Kika. Et puis, nous allons aussi entendre Tariq Salé pour Les Aigles de la République. Lui, il était en compétition à Cannes et on a pris le son de la conférence de presse. Mais voilà, ça fait quand même trois cinéastes à entendre dans cette émission où nous parlerons également de Frankenstein. Mais nous allons commencer avec une comédie. En 1940, un père de famille se fait passer pour juif pour fuir la misère et entraîne toute sa famille dans un périple improbable. Nous parlons de La Bonne Étoile.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Les comédies qui nous amusent avec la période de l'occupation sont assez rares. Il y a bien évidemment La Grande Vadrouille, Papy fait de la Résistance parmi les réussites, et puis La Septième Compagnie parmi les films oubliables. Contrairement aux Américains, on rechigne un peu à mettre en avant notre histoire, surtout quand elle manque de gloire. Avec La Bonne Étoile, Pascal Elbé s'attaque à deux verrous cinématographiques. Alors d'une part, sa comédie se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale avec les Allemands déjà dans notre pays, et en plus il traite de la question juive d'une manière assez insolente, il faut bien l'avouer.
Papa, t'as zigouillé des Allemands?
Si j'ai zigouillé des Allemands, des centaines.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux.
T'es parti hier, Jeannot.
Ouais.
T'as déserté.
Oh, tout de suite, les grands.
Réponds.
Oui, on peut dire ça.
Nous sommes en 1940, Jean Chevalin et sa famille ont vraiment du mal à tenir les deux bouts. Le peu qu'il voit de la guerre, Jean, eh bien, lui donne envie de déserter. Quand il apprend que des juifs sont cachés par une châtelaine, il estime que c'est le salut pour sa famille. Il ne reste plus qu'à se faire passer pour juif dans une période, évidemment, où il faut porter l'étoile jaune. Hein. Pas si facile, mais pas impossible, et c'est ce qui fait le nœud de cette comédie. Pour incarner cet anti-héros, Benoît Poulvorde, un homme qui se rend compte un peu trop tard qu'il n'a pas fait le bon choix et qui n'avait pas mesuré le risque qu'encouraient les juifs.
Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux.
Oui, que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive.
Voilà.
La démarche est assez inhabituelle, mais...
L'un des grands intérêts de ce film de Pascal Elbé est déjà d'oser nous placer sous l'occupation, où on le sait, il y a de bons et mauvais comportements. Il regarde ainsi l'antisémitisme qui était présent à l'époque et celui, eh bien, en reflet hein, de notre époque. Il reste fixé sur les Français, s'occupe peu des Allemands qui, certes, alors sont bruyants, hein, mais sont aussi capables d'être magnanimes, notamment lors d'une séquence. Il laisse donc de côté le manichéisme, et ça, c'est plutôt intéressant. Certains dialogues comme situation font vraiment mouche grâce à des comédiens alors investis. Il y a Zabou Breitman et Audrey Lamy qui complètent ce casting où Pascal Elbé joue un père juif séparé de son fils. Et c'est là le fil narratif et le nœud dramatique de cette comédie d'aventure qui veut s'attaquer à nos préjugés. Voilà, La Bonne Étoile est en salle depuis le 12 novembre. Une femme perd l'homme qu'elle aime et se tourne vers un métier inattendu pour refaire surface. Nous parlons maintenant de Kika.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Alex Poukine est une réalisatrice qui vient du documentaire et qui a obtenu de nombreux prix, raison pour laquelle eh bien, ça n'a pas été si compliqué finalement pour elle de sortir son premier film de fiction intitulé Kika. Oui, comme le film de Pedro Almodovar, mais rien à voir. Ici, le film qui se déroule à Bruxelles raconte l'histoire d'une femme, assistante sociale, qui, suite à un drame personnel, a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et pour retrouver un logement, eh bien, plutôt que de basculer dans le monde de l'aide sociale, elle choisit d'aborder une nouvelle activité complémentaire à son travail, devenir maîtresse BDSM. Elle, qui fait le bien en tant qu'assistante sociale, eh bien, fait le mal en tant que travailleuse du sexe. Comme nous le dira la réalisatrice, le BDSM n'est pas ici esthétisé comme dans 50 nuances degrés ou autre film. Il est un environnement qui va permettre à l'héroïne d'extérioriser sa peine, son deuil, traversé par des pointes de comédie qui cadressent le portrait d'une femme qui doit se reconstruire. J'ai eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice Alex Poukin et je vous propose maintenant de l'entendre.
Il y a les enjeux extérieurs, ce qu'on comprend, c'est-à-dire que c'est une femme qui a besoin de trouver de l'argent, mais je pense que c'est pas du tout ce que le film raconte. En vrai, c'est pas du tout ça l'histoire du film. L'intérêt du film, c'est pas ça. C'est que c'est l'histoire d'une femme qui a besoin de faire son deuil et qui n'arrive pas à le faire parce qu'elle a peur d'être vulnérable, elle a peur d'être faillible. Et du coup, elle continue à courir. C'est une femme qui court tout le long du film jusqu'à ce que... Parce qu'elle a peur de tomber, en fait.
J'adore cette chanson.
J'ai beau me dire...
David.
Kika.
Tu fais quoi?
Je suis assistante sociale.
J'ai rendez-vous avec madame, ça change. Allez, bisous. Bonne journée, je t'aime.
Rien ne t'efface.
J'ai juste un tout petit peu enceinte.
Mais comment ça, un tout petit peu?
Allez.
Il y a quand même une structure dramaturgique assez commune dans les films où, en fait, il s'agit d'une femme qui a un problème et il y a un prince charmant qui arrive, il vient la sauver et... Parce que, bien sûr, on sait tous et toutes, les femmes ont toujours besoin d'être aidées par des hommes qui viennent les sauver. Ben, bof, en fait. J'avais pas très envie de ça. Et ça m'intéressait, en fait, que ce soit une femme qui ne se présente pas comme une victime et qui... Bien qu'elle soit victime de certaines choses, bien sûr, comme on est tous et toutes, essaie de s'en sortir par elle-même. Mais après, ce que raconte aussi le film, c'est que... Enfin, moi, ça m'intéresse aussi que dans les films où il y a des personnages qui ne sont pas des personnages issus de la bourgeoisie, disons, que ces gens-là fassent autre chose que des trucs archétypaux de pauvres, disons. Mmh. Je trouve que dans les films où il y a des gens qui viennent de classes moyennes, humbles, j'ai l'impression que la seule chose qu'on imagine que ces gens-là pourraient avoir envie de faire, c'est de gagner plus d'argent. Or, c'est aussi des gens qui aiment, c'est aussi des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs collègues, ou alors qui n'ont pas de problème d'ailleurs, mais en tout cas qui ont une vie très dense.
Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout?
Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois.
Et quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent?
Comment vous payez votre loyer?
Je vends mes culottes sales.
Ok, ça je vais pas le mettre dans le dossier.
Il y a aussi beaucoup de sororité avec ses collègues, que ce soit ses collègues travailleuses du sexe ou travailleuses sociales. Moi, c'était aussi très important pour moi de montrer ça parce que je trouve que dans les films, et particulièrement parfois aussi les films d'hommes, on montre tout le temps des femmes comme rivales. Et je trouve que moi, en tout cas, en tant que personne, en tant que femme, c'est les femmes m'ont énormément aidée dans ma vie et j'ai trouvé très, très peu de rivalité. Donc ça, je voulais que ça soit clair dans le film.
Vous me traitez de gros dégueulasse et je vous donne 50 euros de plus. Vous êtes un gros dégueulasse. Pourquoi vous me dites ça? Attendez, c'est vous qui m'avez demandé.
Oui, mais...
Argumentez. Ah.
Tu débutes, c'est ça?
Crachez-moi dessus.
Tu dois mettre tes pratiques. Golden shower, ball busting, paddle, spanking...
Pardon, mais je parle pas très bien anglais.
T'apprendras sur le tas.
Pardon, excusez-moi. Non mais oh, vous me payez, là.
T'es pleine de boutons, t'es sèche...
Mais attends, ça va pas, là.
Sale pute!
Le BDSM, c'est un milieu extrêmement codifié. Et elle aurait pu, par exemple, regarder plein de documentaires sur le BDSM. Or, c'est pas du tout vers ça qu'on est allé. C'est aussi ce qu'on joue dans tout le film. C'est qu'on essaie de déconstruire les codes du BDSM. On n'est pas du tout dans quelque chose de spectaculaire, de sexualisant, sexualisé. Il n'y a pas de latex dans le film. C'est pas un film glamour, quoi, sur le BDSM. Faut pas y aller pour voir un film glamour. C'est pas du tout ça. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que moi, les dominatrices que j'ai rencontrées, franchement, ça pourrait être ma mère. Enfin, ma mère est très bien, je veux dire, mais y a des femmes qui sont hyper rondes, il y a des femmes qui ne sont pas vraiment très jolies, elles ne s'habillent pas forcément en noir, il y en a qui sont complètement en rose, il y a des filles qui sont des grandes universitaires, elles sont très très loin du cliché qu'on a d'elles.
Mais en vrai, pute, c'est comme assistante sociale.
Voilà. Dominatrice, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux payé qu'assistante sociale.
Ouais, je m'inquiète pour la petite et je m'inquiète pour toi aussi.
Je gère.
C'est quoi que vous cherchez dans la douleur ?
Je cherche rien dans la douleur. J'ai tout le temps mal. Mais si au moins, j'ai qu'à dire un mot et ça s'arrête. Ah,
refuser de souffrir, c'est aussi refuser de vivre.
C'était Alex Poukin, la réalisatrice du film Kika, un film sur les écrans depuis le 12 novembre. La vision de Del Toro réinvente le classique de Mary Shelley dans un univers sombre et fascinant. Alors il ne le fait pas pour les salles de cinéma, mais pour Netflix. Nous parlons maintenant de Frankenstein.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Mon créateur a livré son récit. Alors, je vais vous livrer le mien.
C'était une évidence, hein. Guillermo del Toro était né pour adapter Frankenstein de Mary Shelley. Les amoureux de sa filmographie auront tôt fait de relever les liens avec la littérature gothique et ce que l'on appelle les Universal Monsters, ce cycle de films produits par Carl Laemmle Jr. dans les années 30 et en très grande partie inspiré par cette même littérature gothique. Alors il y a Chronos d'abord, le film qui le plaça sur la carte du cinéma est une relecture du mythe du vampire, tout comme Blade 2. Mimic mettait déjà en scène un scientifique créant un monstre prométhéen qui se retournait contre lui et l'humanité. La forme de l'eau, un film qui lui valut le Lion d'or de Venise et les Oscars, entre autres du meilleur film et du meilleur réalisateur, était une relecture tout autant qu'une prolongation de l'histoire et des thématiques de l'étrange créature du lac noir. Et que dire de Crimson Peak, sorte d'apothéose jusqu'alors de cet amour pour ses auteurs, tant Guillermo del Toro n'a cessé de citer les œuvres des sœurs Brontë, d'Anne Radcliffe et donc de Mary Shelley comme indication de lecture pour que ses comédiens soient au plus près des intentions visées par le cinéaste. On peut même dire que son remake de Nightmare Alley est là pour évoquer en filigrane la foire de Freaks, mais rappelons que le film Todd Browning est affilié à la MGM.
Des bribes. Je vois des hommes, des morceaux de souvenirs. Puis je le vis. Ton nom. Victor. Frankenstein.
Alors que la Warner ne sait pas trop quoi faire pour bien promouvoir son The Bride de Maggie Gyllenhaal, relecture déjantée de la fiancée de Frankenstein repoussée en 2026, Netflix donne 120 millions de dollars et une carte blanche totale à Del Toro pour son festin visuel et sensoriel. Alors à première vue, tout semble fidèle à l'œuvre originelle de Mary Shelley et la scène d'introduction nous fait même penser très fortement à la très chouette version de Kenneth Branagh produite par Coppola en 1994. Mais une vie d'admiration et d'influence ne pouvait pas délivrer une simple copie soignée. Del Toro est un auteur qui a maturé l'une de ses références maîtresses à travers sa propre production artistique et se la réapproprie donc à l'aune de ses propres thématiques, comme pour son sublime Pinocchio en 2022, déjà pour Netflix. Frankenstein, version Del Toro, épouse donc le célébrissime récit d'un scientifique ayant défié les dieux en pourchassant jusqu'au bout du monde le monstre qu'il a créé, symbole de son hubris et réflexion sur notre propre mortalité. Del Toro tranche d'entrée en apportant un visuel basculant vers les renvois au christianisme. La créature est réanimée en croix, elle saigne du flanc comme le Christ. Chez le Mexicain élevé dans une esthétique de la religion grandiloquente qui avait dit qu'en découvrant Boris Karloff, il avait compris pourquoi sa grand-mère aimait Jésus, la créature pourrait être la meilleure version de nous, mais va cristalliser via les mauvais traitements infligés par Victor Frankenstein ce qu'il y a de pire chez l'homme qui la maltraite. Et cette fois, en plus de représenter nos péchés, elle a droit à son point de vue.
J'avais conclu que le souvenir de mes méfaits devrait mourir avec moi. Certains éléments de mon récit sont factuels. D'autres non. Mais tout est vrai.
Del Toro coupe son récit en deux chapitres, le point de vue de Victor et celui de la créature. C'est l'occasion de pouvoir être témoin du parcours de Victor et de se rendre compte à quel point il est le propre monstre de son histoire. À force de se croire génial, il ne se rend pas compte qu'il est devenu pire que le père qu'il détestait, et son enfant non naturel va se charger bien malgré lui de l'amener vers une repentance qui passera par bien des sacrifices. Si tout le monde est magnifié par l'esthétique et par la production design à tomber par terre, c'est bien sûr la créature qui vole à tous l'attention, subtil hommage au Frankenstein dessiné par le légendaire Bernie Wrightson. Grâce à son chapitre, elle est enfin l'héroïne totale d'une histoire qui porte le nom de son créateur et qu'on lui attribue souvent à tort. L'autre personnage pur de l'histoire, Elisabeth, jeune femme qui sort d'un couvent et qui est promise au frère de Victor, va comprendre cette créature et ce qu'elle représente face à une humanité corrompue et délétère. Del Toro aime les monstres et nous sommes ici donc dans la lignée de la relecture monumentale que Peter Jackson avait fait en 2005 de King Kong, c'est-à-dire une grande continuation visuelle et thématique du mythe originel tout en creusant les chemins de traverse et des points laissés de côté. Alors oui, c'est parfois un peu long, ça se perd dans certains détails qui ne sont pas essentiels et d'autres passionnants qui auraient mérité plus de temps d'existence à l'écran. Le casting est malheureusement inégal et la musique d'Alexandre Desplat n'imprime pas forcément nos oreilles, mais l'œuvre n'en reste pas moins d'une sincérité enthousiasmante. Alors à défaut d'être l'adaptation ultime rêvée, nous avons déjà un film d'auteur total et c'est déjà suffisamment agréable.
Frankenstein est visible sur la plateforme Netflix. L'ascension criminelle de quatre jeunes femmes décidées à renverser les codes. Nous parlons maintenant du gang des Amazones.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
L'histoire de ces 4, ou plutôt 5 femmes, semble avoir été écrite pour le cinéma. Le gang des Amazones de Mélissa Drijard s'inspire de faits réels survenus au début des années 90 dans le Vaucluse. Le film retrace le parcours de 5 jeunes femmes issues de milieux populaires qui ont braqué 7 banques autour d'Avignon. Une histoire déjà racontée dans un épisode passionnant d'Affaires Sensibles sur France Inter et plusieurs reportages télévisés et documentaires. Que personne ne bouge, les Amazones du Vaucluse, de Solveig Anspach en 98 notamment. Drijard, elle, choisit la fiction et précise d'emblée, ce n'est pas un film de braquage. Pas un film de casse donc, mais un polar dramatique mené par un quatuor d'actrices plébiscitées en ce moment, Mallory Vanek, Lina Koudry, Laura Felpin, Isia Higelin, et qui sont accompagnées également de Kenza Fortas. Le tout se déroule dans une Provence populaire, mais presque neutre, puisque de par le casting, l'accent local est éliminé, ce qui gomme la dimension régionale caractéristique de l'île sur la Sorgue.
Qui avait d'autres que sa vie d'avant ici?
Personne.
Passe les yeux, toi!
Allez!
Démarre! Roule!
Il y a eu un braquage ce matin. Vous étiez où, ce matin, par exemple? Tu connais le gang des Amazones? Ça te plaît d'en faire partie?
Le film adopte un cadre film d'époque, années 90 du moins, dans une ambiance où la misère est sociale, économique et affective. Dès l'ouverture, un paquet de purée mousseline trône presque en filigrane dans un plan. C'est très simple, mais c'est suffisant pour évoquer ce décor économique précis. Un décor dans lequel une simple erreur de la CAF, la Caisse des Allocations Familiales, peut avoir des conséquences terribles sur le quotidien de ces femmes et mener un groupe de femmes ordinaires à commettre l'irréparable.
À quel moment des jeunes femmes de votre âge se disent que braquer des banques, ça va être une solution là plutôt qu'un problème?
Je savais plus quoi faire.
Si je quitte le quartier pour continuer à gérer vos galères, ça sert à quoi?
La pauvreté produit la frustration. La frustration produit la colère. Monsieur l'avocat général vous les a livrés. Moi, je vous les confie.
Drijard dit ne pas avoir voulu transformer ces femmes en héroïnes, ni en Robin des Bois. Et même si on ressent tout le travail de documentation, le parti pris s'affiche assez clairement. Il ne s'agissait pas de réaliser un film à charge politique ou proche du réel. Car s'il est vrai, Amazon volait en partie pour reprendre le pouvoir sur une société verrouillée et injuste, leur version de cinéma, elle, reste enfermée dans le cadre plutôt sage d'une fiction française classique. Dommage, les échos contemporains auraient été riches. Depuis la après-guerre, on est la première génération, nous les millennials, à être plus pauvres que nos parents, à bosser plus pour vivre moins bien, avec notamment depuis les années 2000 un coût du logement et des biens essentiels qui a augmenté deux fois plus que les salaires. Une inflation démente dans un monde où il est plus compliqué de se rendre justice soi-même en allant par exemple vider les caisses. On écoute Mélissa Drijard nous parler de son film.
Ça a été le plus gros du travail, c'est de faire le tri une fois que j'avais fait ce travail de documentation avec les vraies Amazones. Donc, déjà des heures et des heures d'enregistrement avec elle, ensuite avec leurs avocats, aussi le travail de documentation aussi en prison. Une fois qu'on avait tout ça, il y avait aussi d'éviter un peu l'écueil du film très chapitré. Même si, comme je le disais hier soir, leur vie est chapitrée. C'est-à-dire, bah, elles ont braqué, elles se sont fait arrêter, elles sont allées en provisoire, et puis après, elles ont été jugées. Donc, en fait, à un moment donné, quand on a eu tout ça avec mon co-auteur, Vincent Juillet, on s'est dit, mais comment on va faire pour raconter, en fait, leur histoire ? On s'est dit, en fait, on ne va pas essayer de raconter la réalité, on va essayer de raconter la vérité. Et donc, de porter le sujet avant de coller à leur histoire personnelle.
Allez, on enlève les chaussures, dépêche.
En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser. Mais donc, en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye. C'est un cauchemar.
En fait, c'était avant tout de porter un sujet qui est le déterminisme social, finalement. La misère qui crée la misère, enfin, voilà. Et puis, de choisir un point de vue qui est celui principalement de Katie. C'est-à-dire que même si, en fait, elle, son choix n'est pas motivé par la CAF, mais plutôt par une forme de désillusion, de désespoir. Donc le fil, comme ça, dramaturgique, c'était ça. Et autour de porter un sujet et finalement une sensation, une émotion. Il y a des choix qui sont parfois d'équilibre entre les parties. Par exemple, j'ai tourné les 7 braquages. Hein. Donc il en reste, je pense, 2,5. Par exemple, les Amazones, leur 4e banque, elles ont eu un colis piégé. Je l'ai tourné, ça, hein, avec le colis piégé qui explose. Et à un moment donné, et franchement, ça faisait plaisir à voir, mais c'était plus le film. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu dis, mais en fait, c'est quoi ? Tu es en train de raconter que tu es en train de faire un film de braquage ? En fait, on sait qu'elles ont braqué cette banque. Donc ça, c'était difficile. Ça, tu mets ça à la poubelle, je te jure, t'es pas bien. Mais c'était absolument nécessaire pour le film. Voilà, donc il y a la durée, effectivement, mais surtout, cette espèce d'équilibre et ce que tu veux raconter. Et je crois qu'il faut jamais avoir peur de couper. Si tu as peur de couper, je pense que tu ne sais pas écrire. Parce que c'est une écriture, le montage.
Non, on braque le Crédit Agricole. Qu'est-ce que tu racontes, là ? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Oula ! Baisse la tête, là ! On parle de quoi, là ? Mais on existe pour personne. On est des meufs. Depuis quand des meufs, ça braque ?
La mise en scène, c'est pas forcément que de la technique ou des choses, voilà. La mise en scène, c'est un point de vue. Qu'est-ce que tu veux raconter, en fait ? T'es dans la tête de qui ? Donc ça, par exemple, quand elles sont quatre à table, par exemple, pendant le restaurant chic, en fait, si tu remarques, on est tout le temps, en fait, sur le regard de Lina, qui observe, en fait, ce qui se passe jusqu'à la fin où les mecs viennent la voir, où on n'est qu'avec avec elle. Et ça, j'ai toujours choisi ça. Donc c'était déjà un désir d'être avec elle et dans leur tête, d'où des plans très souvent assez serré. Après, j'avais vraiment cette référence parmi 100 000 références du fils de Saul, voilà, avec ces choses qui se passent hors champ. Pour ce sentiment comme ça de, en fait, même quand elles ont l'impression d'appartenir à un monde, en fait, elles n'appartiennent jamais à ce monde, elles sont tout le temps ostracisées. Pour le focus, vraiment le focus, ne pas les diluer dans tous ces personnages qu'on a. Et après, j'avais envie de ces grands plans séquences de jeu, mais ça reposait aussi sur la qualité, pour le coup, de mes actrices.
C'était Mélissa Drijard sur Le Gang des Amazones.
Un film qui est sur les écrans depuis le 12 novembre. L'acteur le plus adulé d'Égypte est contraint d'incarner Abdel Fattah al-Sissi et se retrouve mêlé aux intrigues du pouvoir. Nous parlons des aigles de la République.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Les réalisateurs bannis de leur pays, il y en a quelques-uns dont les les films sont accueillis en compétition au Festival de Cannes. Alors, il n'y a pas que les cinéastes iraniens qui sont concernés par des pouvoirs voulant les museler. Tariq Saleh est aussi concerné. Le cinéaste suédo-égyptien, qui est né donc en Suède, évite l'Égypte par sécurité car ses films sont considérés comme trop sensibles par les autorités. Il faut dire que le réalisateur ne parle pas de la Suède dans ses films, mais bien de l'Égypte. C'est le cas de Le Caire confidentiel en 2017 et de La conspiration du Caire en 2022 et des Aigles de la République en compétition officielle donc du dernier Festival de Cannes, troisième volet annoncé de sa trilogie du Caire. Après le polar et le thriller, et bien place au film noir. Les Aigles de la République se déroulent donc bien toujours en Égypte. On y suit Georges Famy, le Alain Delon du pays, à qui on demande de jouer dans un film commandé par le pouvoir en place dans lequel il doit incarner le président Abdel Fattah al-Sissi, rien que ça. Le pharaon du cinéma égyptien n'est pas franchement d'accord, mais un tel pouvoir est suffisamment convaincant pour vous forcer la main et vous demander d'accepter avec le sourire en vous laissant entendre par exemple que votre fils unique pourrait avoir un accident malencontreux. S'il est prêt à accepter, il veut s'assurer quand même que le film n'est pas franchement nul car il s'en convainc, Georges Famy ne fait pas de mauvais films. Il fait en sorte que le pouvoir choisisse un bon réalisateur, mais ce dernier réalisateur donc lui explique qu'il n'y a rien à faire, nul c'est nul. Mais allons-y, lançons-nous dans le tournage sous la surveillance du conseiller du président qui vous dit quand une prise est bonne ou pas. Le cinéma se met au service de la propagande. Ce pan du récit accompagne les errances sentimentales du comédien qui n'arrive plus à contenter la jeunette qu'il a pris sous son aile, d'autant qu'il tombe raide amoureux de la femme du ministre des Armées. Terrain miné, prévient-elle, mais je t'en fous. Le sort de notre acteur ne tient pas à grand-chose, à des jeux de pouvoir, c'est clair et limpide. Les Aigles de la République est un film très maîtrisé qui prend des allures de vieux films classiques des années 70 ou 60. C'est l'impression que j'ai eue en le voyant. Mais s'il commence sur le ton de la légèreté, il s'enfonce peu à peu dans la terreur. À mesure que l'acteur accepte son rôle, se plie à l'exercice en tentant quand même d'y mettre sa patte, eh bien il s'enfonce davantage dans les méandres d'un pouvoir qui cherche à y voir plus clair en désinguant qui il peut. Toute star qu'il est, il n'est qu'un pion, une variable médiatique et peu à peu un pantin. Il y a quelque chose d'élégant dans la mise en scène de Tariq Saleh qui rend le film attachant grâce à un montage précis et puis des scènes vraiment efficaces. Alors ce n'est pas seulement une œuvre politique cinglante et morale, c'est un film noir dans lequel un personnage est aux prises avec des éléments extérieurs mais aussi ses propres démons. Le film vous fait sans cesse penser à ce que vous feriez à sa place et soulève tout un tas de questions sur l'art manipulé, la position de l'artiste dans un régime autoritaire et ce que peut même la popularité face au pouvoir. Pas grand chose. Nous écoutons maintenant Tariq Saleh qui était donc présent à Cannes en compétition.
Le cinéma égyptien est l'un des plus forts patrimoines cinématographiques, on pourrait dire. Il fut un temps où l'Égypte était la troisième nation cinématographique en termes de nombre de productions. Moi, j'adore le cinéma égyptien. Mais en même temps, le cinéma égyptien a toujours une relation, compliquée avec le pouvoir. Et ça n'est pas seulement en Égypte, c'est bien là où le bât blesse. Nous nous battons tous, parce que c'est très cher, comme vous le savez, de tourner des films. Et donc, nous devons rester circonspects sur nos gardes vis-à-vis du pouvoir. Mais en Égypte, de façon plus particulière, il faut savoir qu'un tiers de l'économie est gérée par l'armée. Et pour cela, à cause de cela, il faut être encore plus prudent. Et l'industrie cinématographique égyptienne, aujourd'hui, à ce stade, est finalement contrôlée par une société qui s'appelle The United, qui est la propriété de l'armée. Et donc, oui. Ce film n'est malheureusement pas une satire. En tant que cinéphile, comment dire, c'est le film noir, le genre absolu. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de meilleur genre que celui-ci, que les films noirs. Et dans les films noirs, il n'y a qu'une règle qui prévaut, à savoir que le protagoniste principal est son principal ennemi. C'est une lutte existentielle.
C'était Tariq Saleh en conférence de presse au dernier Festival de Cannes pour le film Les Aigles de la République qui est en salle depuis le 12 novembre.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir,
de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et nous parlerons eh bien, de plusieurs films cannois. Il y aura notamment le film de Scarlett Johansson. Il y aura le film de Dominique Moll, Dossier 637, merveilleux film. Et nous entendrons le réalisateur qu'on a eu le plaisir de rencontrer. Et puis, nous parleras aussi d'un autre film.
Oui, Des preuves d'amour d'Alice Douard.
À la semaine prochaine.